Hashtag 2050 le podcast, c'est chaque semaine votre shoot de futur. Aucun effet secondaire, juste un trip vers 2050. Je suis Rebecca Armstrong, votre dealer. Ma cam, imaginez le monde de demain. Je suis ravie de conduire vos oreilles une nouvelle fois en Normandie. Oui, pour l'ultime épisode en partenariat avec la métropole Rouen-Normandie dans le cadre de l'accord sur le climat signé en fin d'année dernière. Toutes les infos sont disponibles sur le site notrecop21.fr. Au fil de ces épisodes, vous avez rencontré des habitants, le monde associatif, des entrepreneurs, le monde de l'enseignement, etc. Pour conclure ce cycle, c'est un industriel qui se prête à l'exercice de la conversation tournée vers 2050. Avec Olivier Pascal, ensemble, nous évoquerons les civitech, l'accaparement des outils numériques, nous parlerons de mise en réseau des acteurs à l'échelle d'un territoire, de diversité et d'intelligence collective, tout simplement. Le futur commence ici et maintenant. Bonjour Olivier.
Bonjour Rebecca.
Nous nous retrouvons dans un café dans le centre de Rouen pour notre conversation tournée vers 2050. Tu as choisi le thème, celui de l'intelligence collective, mais avant de nous plonger dans le futur à partir de ces deux mots, j'ai envie de mieux te connaître. Donc, tu es directeur commercial au sein de l'entreprise Dalkia. Et Dalkia est signataire de l'accord local pour le climat, une démarche au long cours qu'a engagée la métropole Rouen-Normandie. Comment, toi, tu t'es senti emporté, engagé dans ce processus, en fait ?
L'activité de l'entreprise, c'est deux activités. C'est l'économie d'énergie, performance énergétique, et le développement des énergies renouvelables. Donc on était au cœur du processus de la COP21, si tu veux. On est au cœur de notre métier, si on pouvait le résumer, en fait notre métier c'est quoi ? C'est les composantes de la loi de transition énergétique. Donc la COP21, l'idée qui a été lancée sur la métropole, nous concernait de plein fouet. Donc quand c'était lancé, il y a de mémoire en 2017, hein, 2016-2017, début 2017, on était, moi j'ai moi-même participé à énormément de réunions de lancement, de préparation. Et on a été immergé complètement là-dessus et on a essayé d'écrire les récentes histoires rouennaises concernant Dalkia, c'est-à-dire les marchés qu'on a récemment récupérés sur Rouen, enfin, qu'on a gagnés sur Rouen. On a essayé de les écrire en lien avec cette COP21.
Alors ce qui est intéressant, c'est que parmi les signataires de cette COP21 locale, il y a des associatifs, évidemment des collectivités, mais aussi des entreprises privées comme Dalkia. Est-ce que tu as le sentiment que cette mise en mouvement collective, elle va impacter les façons de voir le territoire, de penser justement les marchés publics, les objectifs de toutes ces parties prenantes ?
Ouais, j'en suis intimement convaincu et tu vas rejoindre donc directement mon sujet, je te vois arriver. Non, c'est clairement ça, c'est cet engouement collectif, cette vision collective qu'on a eu l'occasion de mettre en pratique, hein, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure sur des cas concrets, mais sans cette COP21, on n'aurait pas eu cet engouement des entreprises, cet engouement commun public-privé, et cet engouement, j'ai envie de dire, en trio entre public, privé et citoyen.
Ouais. Et ça a permis, j'imagine, c'était le cas pour certaines associations, d'entrer en dialogue avec des interlocuteurs qui peuvent soit d'habitude paraître lointains ou hors de propos.
Ça ouvre des champs énormes. Il y a un frein, c'est pour ça que j'aime bien ce thème de l'intelligence collective, parce qu'il y a un frein naturel humain à aller vers l'autre. Et on s'aperçoit que quand on crée des conditions pour réunir les gens sur un sujet qui va les passionner, et l'environnement est un sujet aujourd'hui qui passionne, on sent qu'il y a du lien qui se crée et qui est beaucoup plus facile ensuite de faire émerger des idées, des projets et des réalisations.
Tu le disais, Dalkia, pour l'entreprise, les enjeux, c'est la production d'énergie renouvelable, notamment. Comment, justement, on arrive à s'engager dans une démarche territoriale où la question de la sobriété énergétique est aussi extrêmement importante. Est-ce que c'est de l'ordre de la schizophrénie ou est-ce que justement c'est une façon de repenser le modèle économique d'une certaine façon ?
Alors c'est une façon de repenser le modèle économique, c'est absolument pas de la schizophrénie. Par contre, il faut rester dans le domaine du raisonnable. Quand on pense développement durable, quand on pense environnement, on ne va pas tout révolutionner, on ne va pas passer du jour au lendemain sur une économie zéro carbone, c'est impensable. Donc il y a tout un mécanisme à penser, il faut y aller étape par étape. Et quand on voit les objectifs de la loi de transition énergétique où on envisage une diminution par deux des consommations d'énergie, voilà, il faut se donner les moyens et ça ne se fera que par étapes, en lien aussi avec le développement économique.
Moi, ce qui m'a plu aussi dans le fait que tu choisisses l'intelligence collective, c'est que tu n'aies pas choisi le thème de l'énergie. Parce que l'intelligence collective, ça peut parler d'énergie, mais de beaucoup d'autres choses. Alors, pourquoi ce thème de l'intelligence collective ? Tu as commencé à en parler un tout petit peu, mais pourquoi tu as choisi ces deux mots ?
Alors, dans une de tes questions, ça va être ma vision de 2050. Alors, je pourrais dire, comme beaucoup, 2050, je veux que ce soit plus vert, je veux qu'il y ait moins de pollution, je veux un monde idéal, je veux ceci, je veux cela. Pour moi, et c'est un peu la stratégie dans notre métier, c'est de regarder, d'avoir une vision. Quand on a une vision, là où on veut aller, le reste découle. Et je pense que la bonne vision aujourd'hui, dans le monde actuel qui est un monde très numérisé, où on est de plus en plus individualiste, où on est seul avec son téléphone à regarder ses petites infos, et donc c'est créer une ouverture, cette intelligence collective qui va permettre d'arriver sur ces étapes d'intelligence collective qui est le but final, de faire des bons projets, et ces projets de développement durable, d'énergie renouvelable, etc., arriveront sur le chemin. C'est un petit peu ça. Je fais toujours l'analogie avec le politique qui vise son mandat au bout de 6 ans, sa réélection, le chef d'entreprise qui va viser sa marge, mais celui qui gagne, c'est celui qui vise autre chose, c'est celui qui vise le projet, ce qu'il y a après, en fait. Et ce qui après, on ne l'atteint jamais.
Oui, ben oui, c'est ce que j'étais en train de me dire, c'est que dans ce que tu dis, cette intelligence collective, c'est plus une méthodologie, un processus, une dynamique, et les finalités, certaines arrivent maintenant, certaines peut-être en 50, d'autres en 2040.
Exactement ça.
Voilà, le rythme pourrait être différent. Alors, en 2050, on sera dans un monde encore plus, je pense... un monde où les technologies seront d'autant plus présentes encore dans nos vies. Il y a encore des choses, je pense, qui vont bouger. L'intelligence collective, elle prendra quelle forme ? Est-ce que ça sera, justement, on sera encore plus connectés, mais connectés aux autres ? Enfin, comment tu vois les choses ?
Alors, c'est clair, on sera de plus en plus connectés, hyper connectés, c'est le vrai sujet. Mais être capable, en parallèle, de développer ces conditions qui permettent de réunir, de créer cette intelligence collective, fait qu'on pourra contrebalancer cet effet pervers de s'isoler au travers du numérique. Et le numérique deviendra un moyen, un outil, et on sera au-dessus on l'utilisera, et ça va en étant un outil au service de l'intelligence collective, ça va permettre de dupliquer de façon exponentielle, développer de façon exponentielle cette intelligence collective. Et l'idée, enfin, c'est pas évident à définir, à expliquer, c'est pas palpable, mais l'idée, c'est de ne pas être dépendant, d'être au-dessus pour dire, ben voilà, le numérique, on en a besoin, on va être hyper connecté, mais c'est un outil. On est au-dessus de ça.
Évidemment, je pense à tout ce qui est Civitech. On voit déjà des acteurs, que ce soit des startups ou pas, c'est aussi dans le milieu associatif, même y compris de l'économie sociale et solidaire, qui créent des outils justement pour permettre aux habitants, par exemple, d'un territoire ou d'un quartier, de donner leur avis, de faire des propositions. Est-ce que c'est vraiment le déploiement de ce type d'outils, pour être dans le pratico-pratique, qui permettrait à l'échelle qui d'un quartier, qui d'une commune, qui d'une intercommunalité, de finalement générer du projet partagé ? C'est pour cela que ça servirait ?
Bien sûr, c'est un des moyens, ce pourrait être ça. De toute façon, quand on regarde la COP21 sur la métropole de Rouen, si on n'avait pas eu l'impact du numérique, on n'aurait pas le déploiement que l'on voit actuellement. Comment faire connaître à un moment donné une action stratégique liée à l'environnement ? Le numérique est un des moyens, un des leviers qui permet de dupliquer et de faire connaître également ce que la métropole de Rouen fait à un niveau international.
Une des questions que je me pose sur les outils d'intelligence collective, c'est la question finalement, mais assez récurrente, d'un risque d'accaparement. On le voit, on l'a un peu entendu par exemple dans le grand débat autour, en réponse à la crise des gilets jaunes. Il y a une plateforme internet où les gens peuvent envoyer des contributions et il semblerait en fait que certains groupes, des lobbies, qui peuvent être des lobbies qui soient positifs ou pas, qui se sont emparés de l'outil et qui l'ont inondé de contributions en copier-coller. Et donc finalement, on a l'outil numérique pour une intelligence collective et finalement, elle est phagocytée. Et comment on peut ne pas tomber dans ce piège-là ?
Elle est cannibalisée, mais c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber, effectivement. Je n'ai pas la réponse, immédiate, mais je pense que dans cette notion d'intelligence collective, il y a une notion d'humain, de rencontre humaine, numérique d'un côté, mais aussi une relation humaine qui doit se faire, parce que la COP21 fait très, bien, hein, des rencontres, un atelier physique. Donc c'est une part des deux. Tu fais référence au grand débat, il y a eu quand même des rencontres, etc. Après, c'est plus, c'est peut-être un contre-exemple, c'est peut-être un cas particulier qui fait que de façon politique, il y a peut-être un intérêt ou pas à phagocyter le truc, je ne sais pas. Mais là, on parle de choses quand même vertueuses, on parle d'environnement. Il est certain que l'exemple de la COP21, ça pourrait être tout à fait orienté à un moment donné. L'idée, c'est que ce soit participatif et que les citoyens restent acteurs de ce qu'ils ont entrepris. Que ce soit pas juste « j'ai fait mon action et maintenant je m'en vais ». Donc ça reste acteur, ça se poursuit.
C'est un réengagement, voilà, c'est pas du ponctuel, c'est sur le long terme. Et donc, dans cette perspective-là, est-ce qu'on peut imaginer qu'en 2050, grâce au déploiement d'outils éthique, je pense qu'on peut intégrer cette notion-là qui reprend cette dimension humaine, la responsabilité d'usage éclairé de ces outils-là. Ça peut aller jusqu'à un réenchantement de la res publica, de la chose publique et du fait que, alors en 2050, je ne sais pas encore à quoi ressembleront les processus électoraux du futur, mais réintéresser les gens à tout cela.
Oui, pourquoi pas. Ce serait très vertueux si on arrivait à ça. Et ça peut être un bel objectif pour 2050 d'arriver à ce genre de concrétisation.
Dans cette intelligence collective que tu décris, on évoque le numérique comme étant des outils indispensables. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui est traité dans la coalition numérique, je crois, de la COP21 locale. C'est le coût énergétique, finalement, et donc l'empreinte carbone, in fine, de tout le monde Internet, les Internets, le monde virtuel, le cloud, etc. Est-ce que là aussi, il n'y a pas un piège un risque de fuite en avant, en fait, autour de tous ces outils-là, et finalement de se rendre compte que, OK, on va peut-être moins voyager en avion en 2050, mais finalement, toute la masse de données qui resteront à traiter, etc., dans le cadre de ces démarches de processus collectif, viendront planter l'affaire.
On est sur un... Le numérique fait que tout devient mondial. Le jeune étudiant qui développe un concept au fin fond de son garage en Indonésie peut devenir milliardaire demain au fin fond des États-Unis parce qu'il sera connu en moins de 30 secondes par son concept. Donc déjà là, on répond quelque part à une préoccupation environnementale parce qu'il y a plus, enfin, le numérique empêche les déplacements. Comme le numérique initie quand même cette vision mondiale, je ne pense pas qu'on va s'orienter vers moins de déplacements en avion, etc. On a des cas aujourd'hui, des gens qui luttent et qui disent « c'est pas bien, donc je ne me déplace plus en avion ». Je pense que le numérique, les nouvelles technologies vont permettre de mieux se déplacer en fait, dans le monde entier. Que ce soit moins polluant, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et toujours dans l'idée que ces nouvelles technologies numériques soient au service de ce que l'on veut faire et qu'on maîtrise toujours ce que l'on veut faire.
Revenons, recentrons-nous sur le territoire de la métropole. Donc on est en 2050. Tous les deux, on sera un peu vieux, mais c'est pas grave. L'intelligence collective mise en œuvre à l'échelle d'une collectivité, qu'est-ce que ça, comme la métropole, à quoi ça pourrait ressembler ?
Ça pourrait ressembler déjà à plus de projets, plus de rapidité dans les projets, parce que plus de confiance. Quand je dis plus de confiance humaine, c'est être capable de concilier les enjeux d'une collectivité, au sens politique du terme, les enjeux des entreprises privées, les enjeux du citoyen. Pour moi, c'est cette vision-là. Donc pareil, c'est toujours assez conceptuel, hein. Je ne vais pas dire on va construire ça et ça sur la métropole de Rouen. Pour moi, dans un monde idéal, en 2050, on devrait, si on travaille là-dessus, sur cette intelligence collective, on devrait être capable de fédérer ces trois piliers de la société pour faire avancer beaucoup plus rapidement nos projets.
Alors, plus de rapidité parce que plus de confiance. Et est-ce que... on pourrait imaginer, parce qu'aujourd'hui, autour de la COP21, au niveau des citoyens, là plus particulièrement, on a des outils qui sont les conseils de quartier, etc. Du côté des entreprises, il y a le conseil économique et social, économique, social, environnemental de Normandie. Il y a ce type de structure-là. Est-ce que l'intelligence collective de 2050 pourrait permettre, finalement, au-delà des 500 personnes qui sont identifiées ou acteurs engagés, d'avoir une agora qui soit beaucoup plus large et efficace.
J'en suis convaincu avec toutes les actions. Pour autant que, quand je parlais de vision tout à l'heure, la COP21, c'est un très très bon exemple de cette vision, c'est que la COP21 ne doit pas s'arrêter aux prochaines élections de 2020. Il faut que la suite adhère sur voilà, toujours cette vision moyen-long terme. Et si cette vision perdure, les actions engagées ne vont pas s'éteindre, elles vont se poursuivre, et elles vont se poursuivre différemment, elles vont s'améliorer de façon à arriver en 2050 et suivante, hein, et après, à une prise de conscience de chacun. Et on le voit dans les projets qu'on a pu mener avec la métropole de Rouen, on est allé toucher le citoyen qui a réagi à un moment donné et qui commence à s'intéresser à des sujets qui étaient pour lui absolument pas de son quotidien, absolument pas intéressant. Là, je vais parler par exemple de mon métier qui est notamment le réseau de chauffage vertueux. On n'a jamais touché dans une ville un citoyen, il s'en fiche. Pour lui, ça touche des grands bâtiments. Et on a lancé un financement participatif. Et l'idée, c'était un vecteur de communication. C'était pas pour apporter un produit financier, c'était pour aider à la communication, mieux comprendre ce qu'est un réseau de chauffage urbain et sensibiliser le citoyen. Et on y est arrivé aujourd'hui avec une levée de fonds d'à peu près 1 million d'euros. On a touché énormément de citoyens qui sont venus dans les réunions publiques et qui se sont intéressés à ce que l'on faisait. Ils ne se seraient pas intéressés auparavant sans ce genre d'outils.
Toi qui, justement, je ne l'ai pas précisé, mais tu travailles à la fois sur les Hauts-de-France et toute la Normandie, est-ce que des démarches de ce type qui essaie justement de mobiliser cette intelligence collective dans sa diversité, tu en vois par ailleurs, tu en perçois d'autres?
Il y a des petites actions à droite, à gauche, hein, sur des métropoles comme Lille, sur des communautés urbaines comme Dunkerque. Il y a forcément des actions qui sont initiées au travers d'associations, mais une démarche de cette envergure sur l'ensemble du territoire qui demande une implication des politiques, des agents administratifs, des citoyens, des entreprises, non, j'en connais pas. Sur ces deux grandes régions, j'en connais.
Est-ce que cet impact au niveau des entreprises, en particulier, est-ce qu'il est circonscrit aux dirigeants, aux personnes comme toi qui se sont mobilisées effectivement dans des réunions, dans les différentes coalitions, ou est-ce que, peut-être que le recul n'est pas suffisant, ça arrive à infuser en fait la culture de l'entreprise et donc à regarder son métier autrement? Alors, je vais caricaturer, on n'est plus juste là pour vendre un produit, quelle que soit sa vertu, mais on est aussi là pour travailler au mieux vivre sur un territoire.
Carrément. Aujourd'hui, on voit, enfin, quand on écoute beaucoup d'experts, beaucoup de consultants dans le domaine, tout le monde pressent que le futur de nos entreprises, c'est l'impact sociétal qu'elle aura. Et on voit dans nos recrutements, aujourd'hui, les jeunes qu'on recrute sont très à l'écoute de ce que l'on fournit d'un point de vue sociétal, ce qu'on fournit à la société, ce que l'on apporte. Et donc là, l'exemple de la COP21 qui touche aussi notre personnel, puisqu'on a communiqué en interne, et puis c'est du personnel qui habite sur la métropole, donc ils en ont entendu parler, ils ont vu nos communications dans la presse, ils ont vu les communications de la métropole de Rouen, donc ils se sentent aujourd'hui impliqués. Et ils ont également une vision différente de notre métier, qui est de se dire, ben, finalement, on apporte aussi des choses au territoire.
On a parlé d'intelligence collective territoriale, c'était le cœur du sujet, mais il y a très peu de temps, dans le cadre d'une future mission, je vais sans doute travailler sur des questions d'organisation des espaces de travail, management et intelligence collective. Donc je me suis dit, ah, le thème d'Olivier, ça tombe bien, ça commence à me faire mouliner ces questions-là. Et justement, au sein d'une entreprise, est-ce que cette recherche d'intelligence collective, ça se traduit aussi par une façon différente d'organiser des espaces de travail? Est-ce que c'est aussi des façons différentes de construire le management? Parce qu'on parle maintenant des entreprises libérées, totalement horizontales.
Alors libéré, je vais mettre quelques garde-fous, mais oui, on est. L'idée, c'est vraiment de créer des conditions. Je ne vais pas parler des conditions matérielles de travail, mais vraiment des conditions humaines pour faire en sorte que les gens se rencontrent. Moi, c'est peut-être un peu facile parce que je suis dans le commerce. Donc dans le commerce, on a peut-être une faculté à aller vers les gens. Mais je me mets à la place d'une juriste qui doit aller dans un service de notre entreprise pour aller chercher une information, pour donner son point de vue sur tel ou tel sujet. C'est pas évident. et donc créer à un moment donné des situations qui permettent aux gens de se rencontrer, d'échanger, de se connaître, favorise forcément l'émulation, la création et donc tire l'entreprise vers le haut.
Tout à l'heure, tu parlais de l'évolution des recrutements, des jeunes recrues qui justement veulent du sens dans leur travail. L'ancrage territorial, maintenant, sont des choses qui parlent. Est-ce que ça aussi, l'arrivée de ces nouvelles générations, d'elles-mêmes, en fait, elles impliquent que les entreprises et plus largement que les acteurs d'un territoire bougent? Parce qu'on ne peut plus dire, j'imagine, hein, j'ai jamais travaillé dans un grand groupe, mais dire à quelqu'un, tu fais ça, c'est pas grave si tu comprends pas, enfin voilà, ça ne marche plus.
Non, ah non, ça marche absolument plus. Non, on n'est plus là-dedans. Il faut donner du sens. Faut donner du sens dans ce que l'on fait aux clients. Faut donner du sens à ce que l'on fait en interne. Comme tout va très très vite, l'information circule à une vitesse inouïe. Aujourd'hui, les employés, les citoyens. On se besoin de rapidité. Ça réagit au quart de tour, ça, et donc ils ont besoin d'un sens, et un sens qui sera expliqué aujourd'hui sera plus valable demain. Donc il faut systématiquement, en tant que manager, en continu, donner du sens.
Mmh. Et que les personnes elles-mêmes aussi soient capables de construire aussi le sens, et j'entends par là se l'approprier. Oui. Et donc on n'est plus uniquement dans l'exécution d'une tâche, même si elle a du sens, mais on construit une mission.
Absolument, il y a les deux. C'est une relation qui a toujours été dans l'entreprise bilatérale, mais aujourd'hui, on doit fournir de plus en plus aux salariés ce sens. Il y a du sens à donner dans ce que l'on fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens réclament beaucoup d'empreintes, d'emprises sociétales. Hein. On le voit dans toutes les actions. Au quotidien.
Pour revenir à 2050, donc une métropole Rhône-Normandie où l'intelligence collective permet de mener des projets plus vite, de meilleurs projets aussi, parce que tu as parlé de confiance, et j'aimerais justement revenir sur cette notion de confiance parce que c'est extrêmement important comme idée. Et en même temps, on sent qu'elle peut être très fragile. Je repense aux aspects technologiques parce que avec tout ce qui se passe autour de la donnée, des algorithmes, lorsque l'on choisit un algorithme pour traiter un certain nombre de données, eh bien, on fait des choix. On applique, là, on fera A moins B, là, on fera A plus B, etc. Et donc, il y a aussi un enjeu pour embarquer dans une aventure collective, qu'on ait confiance dans ce back-office, en fait, de la donnée et du numérique, pour qu'on sache que voilà, il n'y a pas de manipulation. Et ça, c'est avec les GAFAM, etc., c'est un vrai sujet aussi. J'imagine qu'il va falloir bouger là-dessus.
C'est un vrai sujet. Quand je parlais dans le début de mes propos de prendre de la hauteur, cette intelligence collective, elle est là aussi pour valider les informations, pour échanger. S'il n'y a pas cet échange, on est enfermé avec la donnée qu'on reçoit. On est incapable de la valider. Et aujourd'hui, on le voit, beaucoup de citoyens prennent pour argent comptant ce qu'ils reçoivent. Donc, il faudra de plus en plus aller valider la donnée pour éviter d'être prisonnier de cette data que l'on ne maîtrise pas.
Ouais, donc, ça veut dire que dans un premier temps, il faut mobiliser cette intelligence collective pour construire des outils qui soient partagés, transparents dans la construction, transparents et compris, avant que ces outils soient mis au service d'un territoire et de projets.
Pour partager mon expérience, je suis arrivé en Normandie en janvier 2017.
D'accord, donc c'est tout récent.
C'est récent, effectivement. Et quand j'ai pris le poste, on m'a dit, tu verras, sur la métropole, c'est très fermé. Et en fait, pas du tout. Sans cette COP21, on n'aurait pas forcément eu les bonnes conditions pour échanger sur les sujets qui nous préoccupent. Et on a eu, grâce à cette COP21, Métropole a créé des événements qui nous ont permis d'échanger, de se connaître. Et c'est là où je dis l'intelligence collective, elle permet, c'est un des, COP21, c'est un élément, pour moi, c'est un élément d'intelligence collective qui a permis de réunir différents acteurs qui ont permis d'échanger. On se connaît et aujourd'hui les choses avancent beaucoup plus vite.
Ouais, c'est vraiment ça, c'est se connaître, connecter quoi. Mais connecter, c'est pas juste des likes, etc.
Voilà, c'est connexion humaine et il y a un homme politique, j'espère pas dire de conneries, je crois que c'est Jean-Paul Delevoye qui avait fait une intervention il y a une bonne année. C'était sur Béthune d'ailleurs de mémoire et il disait le numérique pour le numérique ça a aucun sens. En revanche le numérique au service d'un besoin particulier, là ça a du sens.
Et donc finalement toi t'es plutôt optimiste quand tu regardes ce bond à 30 ans
Quand tu imagines tes enfants devenus adultes, alors je dis ça, je ne sais pas si tu en as, mais voilà, c'est les générations...
Si, j'ai deux enfants et oui, je pense qu'on peut être optimiste. Mais être optimiste, ça veut dire combattre tous les jours pour garder cette vision, cet objectif.
J'aime bien cette idée-là, optimiste, mais pour y arriver, il faut combattre tous les jours.
Voilà, c'est ça. Rien n'est acquis et c'est intelligence collective. On le voit, c'est une alchimie entre des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui ne se connaissent pas forcément, qui ont des attitudes de vie, qui ont des visions différentes. Et en fait, on s'aperçoit simplement que aller vers l'autre, c'est une richesse très forte. On grandit par rapport à l'autre aussi, par rapport à l'échange. Voilà, et ça rejoint d'ailleurs un propos qui m'a échappé tout à l'heure quand tu parlais de l'entreprise, du management, mais dans une équipe, il faut une diversité totale. Il faut des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des hommes, des expérimentés.
Parcours, des voilà. Différents.
Et quand on a ça dans une équipe, c'est d'une richesse sans nom. En revanche, une équipe formatée, tout le monde le même profil, bah, en général, c'est prouvé, hein, ça avance pas beaucoup.
Et ça, alors ça pour le coup, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais c'est totalement partagé. Tu as l'impression aujourd'hui dans une culture d'entreprise en 2019 ?
Non.
Non.
Non. Non, non, pas encore, parce que on reste sur des schémas établis. Combien de fois dans mes équipes, on me dit, mais Olivier, on n'a jamais fait comme ça. Voilà, donc c'est comme quand je dis, c'est un combat de tous les jours pour garder cette vision, c'est ça.
Le temps est venu de formuler un vœu, Olivier. Je sais que tu y as pensé.
Alors le vœu que je formule pour 2050 et en lien avec tout ce qu'on s'est dit là durant ces dernières minutes, c'est prendre de la hauteur. C'est vraiment être capable de se détacher du petit objectif matériel que l'on vise. C'est de voir au-delà. Et il faut qu'on y arrive pour 2050 et le reste découlera. Je prends toujours l'exemple du chef d'entreprise ou du commercial qui vise sa marge. Non, il faut qu'il vise la satisfaction de son client. La marge, elle arrivera. Elle arrivera de fait, son chiffre, il arrivera.
Prendre de la hauteur.
Prendre de la hauteur, garder sa vision, garder son cap, et ne pas s'enfermer dans ce petit objectif matériel de demain.
Très bien, et ben prendre de la hauteur, avoir de la vision et se donner un cap, c'est aussi l'ambition du podcast, donc il est plutôt pas mal. Merci beaucoup à toi Olivier.
Merci Rebecca.
En descriptif de cette conversation, vous trouverez le lien vers les 10 épisodes réalisés en partenariat avec la COP21 locale de la métropole Rouen-Normandie. Sur votre territoire d'ailleurs, là où vous vivez, où vous travaillez, existe-t-il des démarches de ce type, associant toutes les parties prenantes pour engager des actions concrètes pour la transition écologique ? Dites-moi, ça m'intéresse. Comme le dit Olivier au cours de notre conversation, il faut que ces dynamiques soient dupliquées, qu'elles soient profondes et s'inscrivent dans la durée. Extinction des espèces, montée du niveau des mers et des océans, fonte extrêmement rapide des glaciers, sécheresse angoissante, population qui trinque un peu partout dans le monde, la partie est loin d'être gagnée. Mais je crois à l'action à l'échelle des territoires. Alors, normal, me direz-vous, c'est mon ADN professionnel, les territoires. Reste à essaimer partout, et faut-il encore que les États jouent leur partition. Il y a de nombreuses voix à accorder, et les dissonances sont encore légion. Mais l'émergence des mouvements tels que Extinction Rebellion, les manifestations puissantes de jeunes à travers le monde, laissent penser qu'une fronde se lève. Sur ces quelques mots, je vous laisse, et comme à mon habitude, en trois mots, soyons toujours curieux.